zambi rasamirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Bonjour ou bonsoir, selon votre position géographique, c'est le moment de suivre la rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine écoulée. À la présentation, Joséphine Jantamundimana. Au titre de la justice, pour commencer cette rétrospective de l'actualité, l'année 2022 n'a pas été bonne pour notre consoeur journaliste Florian Irangabillé, que le tribunal de grande instance de Mukaza a condamné mardi dernier à une peine de servitude pénale de 10 ans de prison ferme avec une amende de 1 million de francs burundais. Irangabillé Florian a été accusé de l'infraction d'atteinte à l'intégrité du territoire national. Les avocats de la défense ont indiqué qu'ils vont faire appel. Les organisations de défense des droits humains n'ont pas tardé à réagir à cette décision injuste du tribunal de grande instance de Mukaza de condamner la journaliste Florian Irangabillé à une peine de servitude pénale de 10 ans de prison ferme. Selon Maître Jean-Jacques Guillemana, c'est une nouvelle tâche sur le bilan du Burundi. Cette condamnation viole le droit à la liberté d'expression et demande sa libération sans condition.
Et ce procès montre à quel point la liberté d'expression et la liberté de la presse sont menacées au Burundi. Ça montre également que la justice burundaise continue à travailler sous le joug de l'exécutif burundais et du parti au pouvoir. C'est dommage que donc cette justice continue à être manipulée, continue à être un outil de répression que le pouvoir en place ne cesse de manipuler à sa guise contre les citoyens burundais, contre les opposants, les défenseurs des droits de l'homme, les journalistes, mais aussi d'autres citoyens qui peuvent être considérés comme tels. Nous demandons donc que les autorités burundaises puissent accepter que ces journalistes soient libérés sans condition, parce que ce comportement des autorités et ce comportement de la justice ne peuvent que nuire ou ternir l'image du Burundi. C'est pour cette raison que nous demandons que sa libération immédiate puisse intervenir, notamment à travers la décision qui peut être prise par le juge d'appel qui est déjà saisi. Sinon, cette condamnation est fantaisiste. Nous le répétons, il n'y a pas possibilité que la justice puisse démontrer que la journaliste en question a commis une autre infraction, sauf le fait qu'elle s'exprimait librement sur le contexte burundais. Et nous considérons que tout simplement le procès a été téléguidé. C'est un procès politique, c'est un signe de répression qui continue contre les défenseurs des droits humains, les opposants, mais aussi les journalistes.
Pendant à présent le chapitre des droits de l'homme, les organisations de défense des droits de l'homme ont été choquées par l'envoi d'un militaire qui est pointé du doigt dans plusieurs cas de violation des droits humains depuis 2015 dans la mission de maintien de la paix en République centrafricaine, la mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation de la République centrafricaine, selon les sources dans l'armée burundaise. C'est l'adjudant Léonidas Ndayishimiye. Ces cas de graves violations ont été commis alors qu'il avait le grade de premier sergent-major. Plus de détails avec Bonfils Niyongere.
Ce sous-officier qui est cité dans les violations graves des droits humains est renommé adjudant Léonidas Ndayishimiye, sous-officier de carrière 40-45 de la matricule. Les informations que nous détenons des sources de la radio Inzambaga Tekakawe dans l'armée révèlent qu'il est parti dans le deuxième vol du 8e bataillon Minusca qui va prendre la relève du 7e bataillon qui a pris l'avion à destination de Bangui ce mardi. L'adjudant Léonidas Ndayishimiye est cité dans les rapports des organisations des droits humains comme étant un acteur proche de feu lieutenant-colonel Darius Sikurakure dans les violations graves des droits humains, surtout dans les enlèvements des autres militaires ex-FAB suivi de disparition forcée, parce qu'il était son chef d'équipage. Le cas le plus emblématique est celui de la disparition forcée du caporal Placide Mawenayo le 4 avril 2016. Ce dernier a répondu à l'appel de l'agident Leonidas Ndayishimiye, alors premier sergent-major, pour se rencontrer à Kamenge. Et depuis lors, le caporal Placide Mawenayo n'est plus revenu. L'adjudant Leonidas Ndayishimiye, encore au grade de premier sergent-major, il a été cité dans l'assassinat du général de brigade Athanase Kararuza dans la matinée du 25 avril 2016, quand il était le chef d'équipage du colonel Dismas Sindaye, surnommé Gafuni, qui venait de remplacer le lieutenant-colonel Darius Kourakoure au commandement du bataillon génie de combat. Les autres militaires qui ont remarqué qu'il n'a jamais comparu devant les judiciaires pour répondre à toutes ces accusations demandent aux Nations Unies de le renvoyer de cette mission et à la justice de le poursuivre pour tous ces cas de violation grave des droits humains.
Cette semaine écoulée a été aussi marquée par cette grogne au sein des enseignants vacataires de la province Muyinga. Ils viennent de passer 5 à 6 ans sans percevoir leur salaire. Selon des sources recueillies par eux, ils ont soumis la question dans les plus hautes institutions du pays, dont celui de la présidence de la République et l'Assemblée nationale, mais rien n'a été fait. Les détails avec Karine Dossavé.
Les enseignants vacataires de la province Muyinga disent qu'ils avaient été recrutés en espérant avoir une rémunération. À leur grande surprise, depuis 2016, ils n'ont rien reçu comme salaire. Certains ont des arriérés qui vont jusqu'à 2 millions, voire même plus. Selon nos sources, ces enseignants ont soumis la question dans les différentes institutions étatiques, à commencer par le ministère de tutelle. Le ministre de l'Éducation a été convoqué à l'Assemblée nationale pour donner des éclaircissements sur ce dossier. Il avait promis de mettre en place une commission pour enquête, mais rien n'a été fait.
Depuis cette période, en 2016, nous avons travaillé. Il y a parmi nous ceux qui réclament des arriérés de 4 ans, 5 ans, 6 ans, mais qui continuent à prester. D'autres sont partis chercher la vie ailleurs. Certains ont été obligés de fuir à cause des dettes. En vérité, c'est un problème très sérieux et choquant. Ce qui fait plus mal, en cette période, le directeur qui s'occupait des finances, connu sous le nom de Steve, nous avait rassuré que la question allait être résolue dans moins d'une semaine. C'était au mois d'octobre 2021. Depuis cette période, nous avons continué à soumettre la question, à commencer par le bureau du président de la République, très récemment le premier ministre quand il est entré en fonction. Nous avons également soumis la question au ministre de tutelle, à l'Assemblée nationale, qui lui a convoqué. Il n'a pas donné une réponse satisfaisante. Je me souviens, il a dit que le montant que les enseignants réclamaient était exorbitant. C'est ainsi qu'il avait promis de mettre en place une commission de vérification, mais en vain.
Vous saurez que la province de Muyinga est la première dans le pays qui recrute beaucoup d'enseignants vacataires parce qu'elle enregistre un manque criant d'enseignants au niveau national. La rédaction de la radio Inzamba n'a pas encore obtenu la version officielle du ministre ayant en charge l'éducation pour plus de lumière.
Dans le domaine de la santé, ce n'est plus un secret. L'épidémie de choléra a été bel et bien déclarée dans les quartiers nord de la capitale Bujumbura depuis 2 semaines. Le ministre de la Santé publique a déclaré que 9 cas sont déjà enregistrés dans les zones Kinama, Chibitoke et Mutakura. Les détails avec Evelyne Mukeshiman.
Selon la note de la ministre de la Santé, 9 cas de choléra avec diarrhée et vomissement ont été jusque-là identifiés au nord de la ville de Bujumbura le 30 décembre dans le quartier Bukirasazi 1 en zone Kinama. Le lendemain, le 31 décembre, dans les zones voisines de Kinama, Chibitoke et Mutakura, 2 autres cas ont été enregistrés. Selon la même note, en zone Buyenzi à la 20e avenue numéro 28, un autre cas a été identifié chez un sujet qui avait rendu visite à l'un des malades des localités des quartiers du nord de Bujumbura. Les échantillons qui ont été acheminés au laboratoire de l'INSP pour analyse le même jour ont confirmé la présence du virus de choléra. Juste un jour après, le 1er janvier, 5 personnes ont été hospitalisées au centre de traitement de choléra à l'hôpital Prince Régent Charles pour une prise en charge. Jusqu'ici, 7 sont sorties guéries. La note de la ministre conclut donc en déclarant l'épidémie de choléra dans les districts nord et centre de la mairie de Bujumbura. La ministre Sylvine Zeimana demande au pouvoir public et à la population burundaise en général, et surtout à celle des zones touchées, de conjuguer leurs efforts pour circonscrire et arrêter la propagation de cette épidémie dans le pays. Cette note signale enfin que certaines dispositions, comme la désinfection des ménages touchés, la sensibilisation de la population sur les risques de la propagation de l'épidémie et le comportement à adopter, ont été prises par le ministère de la Santé. La ministre rappelle à la population de se laver les mains avec l'eau propre et avec du savon pour ne pas attraper la maladie.
Poursuivons cette rétrospective de l'actualité par cet accident de roulage qui s'est produit tout au début de l'année dans la capitale Bujumbura. 3 personnes ont trouvé la mort dans la matinée de lundi dernier 2 janvier 2023 sur la route RN3 tout près de l'hôpital Kila. Selon des témoins, il s'agissait d'un bus de transport en commun qui fait le transport ville Ziba qui a défoncé la clôture de Kila Hospital. Un autre bus a connu un accident faisant un blessé. Ce bus venait de Mutanga Nord et a perdu le contrôle alors qu'il descendait vers l'hôpital militaire de Kamenge. Le blessé était un patient de l'hôpital militaire. Il était avec Pierre Gahungu.
Les victimes de cet accident de la RN3 ont été fauchées par un bus de type Quater de l'agence Lumière qui assure le transport en commun du centre-ville au quartier Ludziba. 2 de ces victimes seraient des maçons qui se rendaient à leur travail, le troisième étant un Belge qui vivait au Burundi et qui faisait du sport. Selon des témoins sur place, l'accident aurait été dû à un excès de vitesse. Le bus a perdu le contrôle et dévié de la route à partir de l'hôpital Kira avant de défoncer la clôture de cet hôpital. L'intervention de la police de protection civile est survenue quelque temps après l'accident. Ils ont pu secourir les 2 personnes blessées qui ont alors été admises dans un hôpital de Bujumbura tandis que les cadavres ont été conduits à la morgue. Un autre accident est survenu au nord de la ville de Bujumbura. Il s'agit d'un autre bus de marque IAS dont le système de freinage aurait lâché alors qu'il descendait de la zone Gihosha vers l'hôpital militaire de Kamenge. Des témoins indiquent que le chauffeur de ce minibus a profité de l'ouverture du portail de l'hôpital militaire où il a ainsi conduit et où le véhicule s'est enfin immobilisé. Une personne a été blessée parmi les patients.
Avant de clore cette rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine écoulée, rendons-nous dans le camp des réfugiés de Nyarugusa en Tanzanie où les inquiétudes sont nombreuses au sein des réfugiés burundais. Ces inquiétudes sont fondées sur le fait qu'un mur isolant le camp est en construction depuis le mois de juillet dernier. Ces réfugiés trouvent que la situation va s'endurcir du moment que le contact avec l'extérieur du camp les aidera à s'approvisionner en nourriture pour faire vivre leur famille quand toutes les activités génératrices de revenus ont été suspendues. Les détails avec Evelyne Mukeshimana.
Ces réfugiés du camp de Nyarugusu trouvent que la construction du mur n'a d'autre visée que celle de les empêcher à s'approvisionner à l'extérieur du camp. Il leur sera difficile d'avoir certains produits qui les aidaient dans leur vie quotidienne. Écoutez ce réfugié.
Je pense qu'ils le font pour empêcher nos relations avec nos voisins tanzaniens. Il nous sera difficile de nous approvisionner en bois de chauffage. Non plus les Tanzaniens n'auront pas l'occasion d'écouler leur récolte à cause de ce mur.
Ils trouvent également que le trajet qu'ils feront pour arriver à l'entrée principale sera long en passant par la brousse.
Ils veulent que nous passions dans la voie principale alors que c'est loin. Nous devons faire des contours pour y arriver et accéder au poste de la police. C'est vraiment très loin. Avec les petites entrées, ça nous facilitait la tâche.
Vous saurez que ces réfugiés burundais négativisent tous les actes posés par le gouvernement tanzanien, eu égard au comportement des autorités qui leur ont empêché d'exercer toutes les activités génératrices de revenus, sans oublier la destruction méchante de leur champ de culture.
Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette rétrospective de l'actualité qui a marqué cette semaine écoulée. Passez un bon dimanche chez vous, à la prochaine.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.